Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
D'Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », édité par Unique Héritage Éditions, à retrouver dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies.
La perte de l'âne à Essling et celle de l'intrépide général Hussard, Lassalle, à Wagram, m'ont durement affecté. Il faut pourtant que je pense à l'avenir. Car si cette dernière bataille est une victoire, la situation en Europe reste fragile et mon trône demeure précaire tant que je n'ai pas assuré ma descendance. De par son âge avancé, l'impératrice n'est plus, hélas, disposée à me l'offrir. Pauvre Joséphine, il n'est plus grand-chose qu'elle puisse m'offrir, si ce n'est sa tendresse et l'amitié indéfectible. Mais le trône a besoin d'un héritier. La France a besoin d'un avenir. Ma belle-sœur Hortense a beau m'avoir donné un neveu, je ne puis renoncer à un prince de mon propre sang. Ce petit Louis-Napoléon ne sera sans doute jamais empereur. Ainsi, je dois me résoudre à quitter Joséphine. C'est pour elle une sévère humiliation. Mais elle me comprend et me pardonne, car la raison d'État l'exige. Une seule solution s'impose. Le divorce, à mon avantage, s'entend. Talleyrand conçoit pour moi la meilleure alliance qui puisse être, avec le plus beau parti d'Europe, Marie-Louise d'Autriche, la fille de l'empereur Joseph, que j'ai combattue à Austerlitz. Quel meilleur moyen pour faire la paix à l'Autriche que celui de lui faire l'amour? Je n'aurais guère besoin de me forcer. Sa beauté et sa fraîcheur ne sont pas pour me déplaire. Avec ses boucles blondes et son teint de porcelaine, elle me fait l'effet d'une jolie poupée viennoise. J'espère qu'elle chassera de l'esprit des Français le mauvais souvenir d'une autre princesse autrichienne, Marie-Antoinette. Guillotinée, il y a tout juste 15 ans. Marie-Louise s'adapte très bien au palais du Louvre. Elle est digne de son titre et de son pays d'adoption. Mais surtout, elle me donne un bel enfant que je nomme Napoléon. Il sera Napoléon II, mon successeur au trône de l'Empire. Cette nouvelle anéantit les espoirs royalistes de voir un jour Louis XVIII restaurer la monarchie en France. À présent, j'ai les coudées franches pour m'occuper de la Russie. Alexandre n'ose pas venir me dire en face qu'il rompt le traité de Tilsit. Alors c'est à moi d'aller à lui, afin de lui signifier qui est le maître. Je décide l'impensable, envahir la Russie. J'entre en Russie comme un couteau dans le beurre. L'armée russe ne fait que se dérober devant notre avancée, fulgurante, car le général Kutuzov redoute une confrontation directe avec la grande armée. Le lâche. Après tant d'esquives, celle-ci finit enfin par avoir lieu à Borodino, aux portes de Moscou. La violence de la bataille est inouïe. C'est une pluie de métal, un orage de poudre, un tonnerre de feu. Les pertes sont lourdes dans les deux camps. Les Russes sont contraints au repli, nous laissant ainsi le champ libre pour investir Moscou, la capitale. Le drapeau d'une armée étrangère est planté au cœur de Moscou. Le drapeau de la France. La ville a été évacuée quelques heures auparavant sur les ordres du gouverneur Rostopchine. Je prends mes quartiers au Kremlin, dans les appartements désertés par le tsar de toutes les Russies. Quelle émotion! Quelle ivresse! Quelle apothéose! Mais ce rêve vire subitement au cauchemar. la nuit du 14 septembre 1812. Un gigantesque incendie, allumé volontairement par des hommes de Rostopchine, transforme la capitale en gigantesque brasier. L'acte est prémédité. Les Russes ont opté pour la politique de la terre brûlée. Cette tactique déjà employée contre Charles XII de Suède se révèle d'autant plus redoutable dès lors que les premiers signes d'un hiver cruel s'annoncent. Avec précocité. Plutôt que de tenter une périlleuse marche sur Saint-Pétersbourg, dans de telles conditions, je dois me résigner à battre en retraite avant de prendre de plein fouet la charge du général le plus impitoyable l'hiver. C'est alors que commence une pénible marche retour par le même itinéraire que nous avions emprunté à l'aller. Le général Kutuzov se lance à notre poursuite. Notre arrière-garde est constamment menacée par ces barbares de Cosaques qui traquent les retardataires et les massacrent comme des chiens. À cela s'ajoute le manque de vivres et les frimas de plus en plus cinglants. Après les flammes des limbes moscovites, nous devons échapper à une guéenne de glace sur ces interminables plaines blanches. Décidément, ce ne sont pas les Russes qui triomphent sur leur sol, mais les éléments. Grâce à une manœuvre géniale et au travail acharné des pontonniers, je parviens néanmoins à sauver le gros des troupes restantes en franchissant la Bérézina, ce Styx gelé dont la traversée chaotique nous éloigne enfin de l'enfer. Galvanisé par mes déconvenues en Russie, mes ennemis reprennent du poil de la bête et forment une nouvelle coalition contre l'Empire. L'Autriche trahit nos accords et le patriotisme de la Prusse se réveille avec une ardeur effrénée. Les deux pays se liguent pour m'infliger une sévère défaite à Leipzig. Fidèles à leur perfidie, ces maudits Anglais jettent sans relâche de l'huile sur un feu qu'attise toutes les rancœurs des monarchies, désireuses avant tout de m'abattre, moi. Cette fois, j'ai toute l'Europe à dos. Et pour la première fois, je dois défendre les frontières de la France. La trahison frappe également dans mes propres rangs. Les rats quittent le navire. Cet imbécile de Murat m'abandonne pour jouer au roitelet à Naples. Le maréchal Bernadotte, élu prince héritier de Suède, rejoint la coalition. Et ce diable boiteux de Talleyrand conspire déjà pour la restauration de Louis XVIII. J'aurais dû faire pendre ce fourbe de la merde dans un bas de soie. Voilà ce qu'il est. Heureusement, je peux compter sur le 109 de nouveaux conscrits que l'on surnomme les Marie-Louise en hommage à l'impératrice. Malgré leur inexpérience, ils ne manquent pas de courage et de dévouement. Piqué au vif, je jette toutes mes forces dans la bataille et mène une de mes plus belles campagnes avec la rage de l'homme seul contre tous. J'arrache de nombreuses victoires à l'ennemi, mais ne peux contenir son avancée qui finit par le mener aux portes de Paris. Je me réfugie à Fontainebleau, tandis que les défections des maréchaux se multiplient. Le Sénat remet les clés de la ville à l'ennemi et me force à une abdication sans condition. C'en est trop. Terrassé par l'idée d'être séparé de ma femme et de mon fils, je décide de mettre fin à mes jours en avalant une fiole de poison. Je veux mourir comme un héros de l'Antiquité, avec honneur, maître de ma mort, comme je l'ai toujours été de ma vie. Mais il faut croire que la nature m'a doté d'une constitution trop solide pour renoncer à l'espoir, car je peine à trépasser. Je suis contraint à l'exil. La mort dans l'âme, je fais mes adieux à la garde. Mais il est des morts dont on revient, et des adieux qui ne sont que des au revoir. Je débarque sur l'île d'Elbe le 4 mai 1814. Voici donc la prison dorée dans laquelle mes ennemis ont décidé de m'enferrer. Un simple rocher, un confetti comparé à l'immense empire que je détenais encore quelques mois plus tôt. Comment peuvent-ils croire qu'après avoir régné sur le monde, je puisse me contenter de ce royaume d'opérette? Mais enfin, il me faut bien m'en contenter. Pour l'instant, les conditions de vie ne sont pas si déplaisantes. L'île est située entre l'Italie et ma chère Corse natale. Le climat est doux et l'air parfumé. On m'a conservé le titre d'empereur, une cour et un contingent de soldats, parmi lesquels figure le brave général Cambronne, dont j'apprécie la loyauté comme le franc-parler. Mais que le temps passe lentement loin du tumulte du pouvoir. Le sentiment que ma mission demeure inachevée me laisse un goût amer. Il me plonge dans d'indicibles langueurs quand le soleil se couche et le silence se fait. Alors je trompe l'amertume et l'ennui en faisant flèche de tout bois. Je modifie le droit, j'entreprends la construction de nouvelles routes, je redessine les jardins, je supervise, j'inspecte, j'ordonne. Je ne tiens pas en place. Ne dit-on pas que l'oisiveté est mère de tous les vices ? Je tiens à laisser mon empreinte à ce petit état dont j'ai quand même la souveraineté. Les nouvelles de Paris me parviennent en secret. Cet impotent de Louis XVIII ne fait pas l'unanimité. Des voix discordantes s'élèvent et déplorent mon absence. Mieux, elles me réclament. Après 300 jours d'exil, les Français ne m'ont pas évincé de leur mémoire. Et semblent me confier encore leurs espoirs. En outre, le roi ne me verse pas la rente que l'État s'était engagé à m'allouer lors des accords de Fontainebleau. Et voilà que j'apprends l'intention des Anglais de me transférer sur une autre île perdue au milieu de l'Atlantique, afin d'écarter la menace que je représente encore à leurs yeux. Cette terrible information me pousse alors à passer à l'action, sans tarder. Dans la nuit du 28 février 1815, à la faveur de l'obscurité, je parviens à tromper la vigilance des frégates anglaises en m'embarquant sur une goélette. Le moment est venu de sortir de l'ombre. Je suis de retour!
Cette série audio vous a plu? Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon », édité par Unique Héritage Éditions. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.